Ça tourne.
Alors bonjour Daniel Dely, du coup. Je suis Alexis Bessin du Master 2 de l'Université de Paris-Nanterre, université où on fait une formation de scénario.
Ouais, bonjour.
Et donc, déjà, on va vous interroger d'abord sur votre parcours, qui est, j'imagine, long. Vous avez touché à pas mal de choses.
Ouais.
Vous avez un parcours à la fois pratique
ouais.
et dans la théorie. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire les grandes lignes de ce parcours rapidement?
J'ai passé mon HDR là, il n'y a pas longtemps,
c'est vrai,
il y a quelques
encore...
années. Donc, mon parcours est frais dans ma tête. Parce que, évidemment, on nous demande de revenir là-dessus.
Bien sûr.
Mon parcours, c'est en fait un parcours d'autodidacte. En fait, j'avais une formation de biologiste et puis ensuite j'ai fait des études théâtrales à Paris 8, 71, quand ça ouvrait. C'était assez génial parce qu'on pouvait aller en ciné, en musicologie, en philo, en littérature. C'était ouvert, il y avait une transversalité des approches extraordinaires. Ça, c'est bien, j'ai un bon souvenir de ça. Cette ouverture comme ça. Et en même temps, j'étais un amateur de jazz assez averti et j'enregistrais beaucoup, beaucoup de concerts en piratant comme ça. Puis je suis devenu ami des musiciens et ils m'ont demandé de faire des maquettes, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en enregistrant de la musique. J'ai enregistré quelques disques d'abord, puis je suis arrivé au cinéma par hasard, par un ami qui m'a dit, tu as un magnéto, ben viens faire le son de mon film. C'était son premier film qu'il faisait avec le grec. Et coup de chance, il n'y avait pas de dialogue, donc c'était que des sons seuls, et ça s'est très bien passé. Et là, j'ai rencontré un chef-op qui m'a dit, oh, mais il n'y a personne au son sur le film que je vais faire la semaine prochaine, tu veux venir? Et ça s'est embrayé comme ça très très vite. Et puis par ailleurs, comme je faisais la programmation de jazz dans un lieu qui s'appelait la Péniche Théâtre, qui est devenu la Péniche Opéra à Paris, là j'ai rencontré ces gens qui montaient Beckett, qui montaient des pièces, et ils m'ont demandé très vite de faire la bande-son des spectacles. Et comme ça, c'est parti dans toutes ces directions en même temps, à la même époque, dans, disons, la première partie des années 70. Et très vite, j'ai rencontré des gens qui sont devenus connus après, comme Ackerman, des gens qui à l'époque, n'avaient pas un rond et travaillaient avec trois sous. Quoi. Et donc, voilà, la chose s'est multipliée. Et puis, je crois que le moment est venu pour moi de réfléchir sur ce que je faisais au bout d'une quinzaine d'années de travail à peu près, quand on m'a demandé d'enseigner pour le Festival d'Avignon. Pour les techniciens de la ville qui étaient engagés chaque été sur les festivals. Donc là, j'ai commencé à leur faire cours. Et ce qu'on me demandait, c'était d'enseigner la technologie, du micro jusqu'au haut-parleur. Et moi, je ne voulais pas enseigner ça. D'abord, ce n'était pas mon truc. Et puis ça ne m'intéressait pas. Et du coup, je les ai emmenés dans la ville faire une mise en scène sonore avec un petit orchestre qui se baladait dans les ruelles et qui disparaissait au loin. Qui jouait une musique brechtienne. Et voilà, et je l'ai placé à différents endroits de la ville avec disparition comme ça de la musique, puis réapparition, etc. Faire sonner les ruelles et essayer de comprendre comment ces éléments peuvent se réintégrer en scène et à la fois rendre compte d'une musique, mais aussi de l'acoustique, c'est-à-dire d'une architecture. Et là, très vite, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché là-dessus, sur une espèce de prise de recul sur les procédures, puisqu'on n'enregistre pas la musique comme on fait le son d'un film ou comme une pièce de théâtre. Et ce recul sur les procédures, en fait, ça m'a permis d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que représenter avec du son. Et là, ça s'ouvre très très vite, très très vite. Et donc ils ont voulu enregistrer ce que je racontais dans mes cours, et puis quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais en corrigeant, j'y arriverai pas, quoi. C'est trop du langage parlé. Et donc je me suis mis à écrire, et là j'ai mis 4 ans pour essayer d'écrire le premier bouquin, qui a été vite épuisé, puis je le donnais beaucoup aux étudiants, et il a été réédité par Klingsic dans leur collection 50 questions. Donc il fallait que je la modifie sous forme de question. Donc j'ai fait ce travail qui n'était pas de la tarte. Et ensuite j'ai écrit le suivant à partir des conférences en tournant le cinéma. Puis ensuite le suivant c'était. Comment ça s'appelle, sous l'avidité de mon oreille. Et ça, c'est la première partie de mon HDR. Et là, va sortir en mai-juin, la suite qui va s'appeler Liberté d'écoute, au pluriel. Liberté. Et qui est l'ensemble des articles que j'ai écrits entre 2000 et 2018. Ouais. Voilà à peu près le cheminement.
C'est formidable, vous avez résumé quasiment 50 ans là.
Oui, c'est ça, c'est 45 ans. Ouais.
Voilà, 50 ans.
45 ans. Ça a été, il y a eu des grands moments. Vraiment, il y a eu des moments de partenariat avec Françon, par exemple. Je suis resté très longtemps au théâtre, on a travaillé beaucoup ensemble. Avec Garel aussi, j'ai beaucoup travaillé avec lui une vingtaine d'années pour les musiques de ses films. Bon, c'est pas forcément les gens avec qui j'ai le plus trouvé d'intérêt à travailler, de créativité. Finalement, l'endroit où on trouve le plus à travailler, c'est avec des gens complices. Et ces gens sont assez rares, quoi. Et quand on regarde rétroactivement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 3-4, quoi, sur une vie. Et en général, c'est des gens pas connus du tout. C'est des gens qui passent comme ça et qui ont une belle idée, qui ont un projet qui est singulier et qui vous place dedans à part égale, quoi. C'est-à-dire à l'endroit où on va interroger ben c'est quoi construire un récit, quelle est la part sonore de la langue, quelle est la part sonore de l'univers des bruits, comment ça, tout ça va exister. Et ça, c'est bien quand on en rencontre. Ouais. C'est avec eux qu'on avance, en fait. Ouais.
Vous avez anticipé sur ma prochaine question, c'est-à-dire en quoi consistait le travail de concepteur sonore, en fait.
C'est assez difficile à déterminer parce que c'est très différent selon les cas. Au théâtre, c'est trouver les moyens de faire exister, de l'enregistrer, des sons qui sont déposés avec les outils qui sont si approximatifs que sont les micros et l'enregistreur. Enfin, ça produit un objet qui n'a rien à voir avec notre écoute. Donc il va falloir repenser comment redémonter ça et le réintroduire aux côtés des voix en direct, du vivant du spectacle, et comment faire exister côte à côte cette continuité de l'enregistrement. Donc comment déconstruire cette continuité pour la faire exister avec la discontinuité de la parole. Ouais. Et donc tout est là-dedans, avec en plus la question de l'espace. C'est-à-dire que le sonore, c'est l'espace, c'est le temps, bien sûr, fondamentalement c'est le temps, au cinéma c'est le temps, mais c'est l'espace aussi, et en quoi finalement cet espace est nécessaire à une scène, et comment la scène peut être mise au relatif à ces espaces. Donc à la fin, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur les acoustiques virtuelles, sur des transformations acoustiques scéniques, rien qu'avec les réverbérations ou avec les délais sonores. Je me souviens dans un Bergman, une pièce écrite par Bergman, Sarah Band, on avait travaillé sur les acoustiques des différentes pièces dans une maison qui était en coupe, comme ça, qui avait des murs de 50 cm de haut. Et comment, à chaque fois qu'un acteur parlait dans un lieu, la couleur de ce lieu changeait, quoi. Et c'était très étonnant, très très surprenant. Ça, j'aimais bien aller comme ça dans des endroits où on travaille jamais, quoi. Pour moi, c'est ça, concevoir le son, c'est essayer de penser pour chaque projet à quel endroit il pourrait être le plus juste avec le projet de mise en scène. Parce qu'en fait, on peut monter les pièces de mille façons. Hein. On peut monter Marivaux avec des costumes contemporains. Et auquel cas, c'est quoi la musique de Marivaux avec des costumes contemporains? Donc il faut par exemple, prendre un clavecin, c'est un instrument de l'époque, et avec une composition de Ligeti ou de compositeur du XXe siècle. Et d'un seul coup, là, il y a quelque chose qui tient du même ordre. Je crois que ça appartient à la mise en scène, hein, donc c'est pour ça qu'il faut être très très proche du metteur en scène. Le son, il peut avoir une autonomie, mais je crois que plus il est lié à l'écriture globale d'un spectacle, mieux c'est. Enfin, je pense toujours à Carmelo Bene, qui est un réalisateur italien et un metteur en scène de théâtre extraordinaire, qui avait monté Roméo et Juliette, c'était à l'Odéon, je crois. Et sur scène, il y avait un décor qui représentait une assiette cassée. C'était un gigantesque canapé blanc sur lequel les acteurs étaient lilliputiens. Et la tour, c'était un verre. Donc on avait une table des fêtes, quoi. Et les acteurs chuchotaient, mais leur voix était reprise avec des micros HF et amplifiée énormément. Dans le rapport de l'échelle du plateau, quoi. Moi qui déteste les micros sur les acteurs, là c'était extraordinaire, quoi. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment des conceptions sonores qui sont puissantes, quoi, vraiment, qui sont complètement intégrées. Pour moi c'est ça, réaliser le sonore, c'est pas rajouter des commentaires sonores, c'est se mettre beaucoup plus à l'essence, quoi, à l'endroit où ça travaille, quoi. C'est quoi imaginer le sonore d'une pièce de Beckett où le monde n'existe pas, quoi. C'est quoi? Ou d'Edouard Bond, hein, les pièces de guerre d'Edouard Bond. Dedans, il y a une femme qui traîne un tissu, comme ça, une espèce de drap. Et à un moment donné, elle roule ce drap, comme ça, elle le prend dans ses bras, et elle en fait un nourrisson, et elle commence à lui parler, et le bébé lui répond. Et voilà, il faut réaliser ça, quoi. Alors c'est sûr, il y a une supercherie, à un moment il y a un chargement du ballon, quoi, mais il faut que dedans il y ait un haut-parleur et un récepteur qui permettent de faire le dialogue. Mais ça sera quoi, la voix de cette femme, de cet enfant, un nourrisson comme ça parle pas, quoi. Donc c'est quoi cette voix, hein? Donc ça se joue avec elle, avec la comédienne, un autre d'elle-même qui serait, je ne sais comment, mais voilà. Donc c'est ça plutôt la question de la, pour moi, de l'esthétique, de la réalisation, enfin, ou de la conception sonore et de sa réalisation, ouais.
Alors on est justement ici au 22e festival de scénaristes de Valence. Alors la question des scénaristes, c'est évidemment celle de l'écriture.
Ouais.
Pour vous, évidemment, la première chose qu'on a envie de vous poser par rapport à ça, c'est évidemment du nom de votre livre, qu'est-ce que l'écriture sonore ?
Ouais, c'est une vraie question. Moi, quand j'ai trouvé ce titre, je ne savais même pas y répondre. C'est vrai, ça a été une intuition, comme ça, je me suis dit, écriture sonore. Et après, je me suis dit, mais évidemment, déposer sur un support, c'est écrire. D'autre part, sur cette question d'enregistrement, à la mairie, le lieu qui s'appelle l'enregistrement, c'est le lieu où on va inscrire une naissance ou une mort, c'est-à-dire un acte. Et donc c'est l'inscription d'un acte. Et alors là, je me suis dit, mais fondamentalement, c'est de l'écriture, le fait d'organiser sur un support des éléments sonores pour construire du sens, quoi. Et donc, c'est quoi les conditions de cette écriture ? On écrit avec quoi ? Comment retrouver la discontinuité du vivant avec des outils qui font, comme ce micro, l'amalgame de tous les sons, et avec un magnéto qui enregistre de la continuité alors que tout est discontinu. Et je crois que c'est par les exemples de la diversité des approches que j'ai commencé à comprendre ce que c'est. Mais honnêtement, au tout début, j'avais peut-être 200-300 petits cartons qui étaient par terre dispersés sur le sol, et où il y avait des mots qui étaient prendre le son, ou qui étaient écoute, ou qui étaient mise en scène, ou qui étaient, voilà. Et j'essayais de faire des liens et de comprendre comment ça s'articulait, tout ça. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de linéarité. C'est l'un à voir avec l'autre, mais aussi avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre, etc. Et il y avait comme ça une espèce de tissage très complexe que je voyais bien, que je connaissais bien, parce que quand on pratique, évidemment, on fait ça tous les jours sans le penser. Mais d'un seul coup, pour le conceptualiser, enfin, c'est pas tellement conceptualisé, c'est bizarre parce que. Dans l'HDR, ils m'ont ennuyé avec ça parce que nous, on ne sert pas de concept, on n'a pas besoin de concept. Mais effectivement, en fait, il y a derrière une conceptualisation, et bien sûr, dès l'instant où on écrit, on rassemble les choses. Bon, ben, c'est quoi mettre en scène le sonore, hein? C'est, par exemple, c'est une vraie question. Donc, c'est là où on se rend compte que finalement, c'est pas l'acte de tendre un micro. C'est organiser les conditions de l'apparition des événements sonores devant ce micro. Donc, c'est quelles sont les variables, hein? Les variables, bah, c'est un son, c'est le son d'un objet, d'accord? Mais c'est un objet en contact avec un autre. Ma main, quand elle tape avec ça, ça fait un son. Mais avec autre chose, ça fait un autre son. C'est pourtant la même main, le même objet, quoi. Et en fait, ce que j'entends là, c'est pas seulement la relation des deux objets, mais c'est en fait la résultante d'un geste. Et d'un geste qui est une adresse à quelqu'un. C'est une façon de marcher, une façon de parler. Hein. C'est un geste, la parole, pareil. Ou d'attaquer une corde de violon. Donc, c'est cette relation à l'autre qu'il y a dans le geste qui est l'essence même de la production du sonore. Donc, en fait, le son, c'est évidemment un objet, mais je veux dire. Casser une bouteille par terre ou jeter une chaise par terre, ça a le même sens dans le sens de l'énervement. Ça veut dire la même chose. Et du coup, les objets sont plus en jeu, mais c'est le geste qui importe. Et d'autant plus que le bruitage de cinéma, c'est vraiment le fait même qui montre que c'est le geste qui compte et non pas l'objet, puisque ce n'est pas les bons objets avec lesquels on bruite.
C'est pour ça que les bruiteurs ne veulent jamais montrer avec quoi
Mais oui, mais en même temps, ça n'a pas d'importance à la
Bien sûr,
limite.
bien
Hein.
sûr.
Leur force, c'est d'être juste dans les gestes. C'est-à-dire que le geste, c'est l'adresse à l'autre. C'est comme la parole. Hein. Les gens qui disent je parle faux, je suis incapable de faire ma voix off, mais c'est une erreur parce que tout le monde parle juste. S'ils parlent faux, c'est que simplement il n'y a pas d'adresse. Mais dès l'instant où on a une adresse, alors tout est juste. Et du coup, voilà, c'est comprendre la question de l'écriture sonore, c'est finalement comprendre les conditions de l'inscription. C'est à quelles conditions les choses vont être organisées. Alors, le contexte est très important. Si on enregistre un vélo dans la rue, bon, il apparaît banalement comme vélo, mais dès l'instant où on le rentre dans un appartement, d'un seul coup, il y a un truc qui est d'étrangeté entre les deux, quand il roule dans une église, c'est encore plus fort. Donc, il y a le texte et le contexte, quoi. Et je pense que penser l'un par rapport à l'autre, c'est très important. Par exemple, dans un film, si on bruite une scène de jour avec des sons enregistrés la nuit, il y a un écart qui se produit et qui fait que la lecture des images ne sera pas du tout la même.
Ce qui est très impressionnant pour nous quand on vous écoute, c'est à quel point les sons dont vous parlez créent des images en fait,
Ah ouais.
dans ce qu'on imagine.
Toujours. Et les images créent des sons. C'est-à-dire quand on regarde un film sans mettre le son, on a la mémoire de tous les sons qui y vivent. Et pourtant, on ne les entend pas. Parce que nous sommes habités en nous par un capital qui est celui de toute notre expérience du monde depuis avant notre naissance, puisqu'on écoute à moins 4 mois. Donc, en fait, écouter, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est quelque chose qui est au singulier parce que ton écoute n'est pas la tienne, ni la mienne. Parce qu'on a une expérience du monde très différente. C'est en ça que le sonore est puissant. C'est qu'il s'adresse à chacun individuellement. C'est-à-dire, c'est une confrontation à finalement mon pouvoir d'être affecté. On a tous un pouvoir différent d'être affecté. Et sur les mêmes affects, ça nous touchera différemment, mais ça nous touchera très profondément parce que on n'est pas le même que le voisin.
On est comme de tels médiocres journalistes limités par le temps. Je vais quand même vous poser deux dernières questions
Ouais.
très terre à terre. D'abord, pourquoi vous êtes ici dans le cadre de ce festival?
Je faisais depuis 10 ans un atelier qui s'appelait Portrait sonore et qui rompait la procédure du cinéma. On partait à partir d'enregistrements du réel sur une thématique donnée. On enregistrait, on commençait à construire à partir de ces enregistrements, on faisait des écoutes collectives, etc. Et on prenait peu à peu des images, soit images fixes, soit images mouvantes, qui n'étaient pas synchrones. Et on assemblait les deux sur la timeline d'un bon montage vidéo pour essayer de comprendre en quoi cette image va répondre ou va travailler avec le son qui est là. Et si j'ai cette image et ce son, alors ça produit quelque chose de nouveau qui va impliquer que le son d'après va être plutôt celui-là que celui-là, etc. Et donc c'est une façon de réassembler la construction, de la penser en croisant image et son, mais en étant toujours dans une construction qui se fait à partir du sonore. Et on faisait des petits films de 5 minutes. Et voilà, et il y avait entre les années où il y en a eu le moins, c'était 4 stagiaires jusqu'à une douzaine. Et ce qui est incroyable, c'est que tous les projets étaient beaux, tout le temps, les projets étaient forts. C'était des petites choses, mais magnifiques, absolument magnifiques. Donc les thématiques, c'était des choses. Je me souviens d'une thématique qui était le seuil sur la question de la séparation, par exemple. Hein. Quand on monte dans le train, on laisse quelqu'un sur le quai. Hein. Cet instant, penser à cet instant où on va se séparer, hein. C'est quoi ça? Par exemple. Mais ça pouvait être le repas, ça pouvait être l'art contemporain, ça pouvait être l'enfermement, ça pouvait être plein de choses comme ça. Et les résultats étaient toujours très très beaux. Donc on faisait une écoute ici au Luxe le samedi à 14h et des gens venaient voir les résultats des travaux et c'était toujours très très, ouais, très riche, très très riche. J'aime beaucoup, mais je le fais toujours aux ateliers Varan à Paris.
Alors, dernière question, très pratique. Vous avez écrit des ouvrages universitaires qui sont assez renommés. Dans la pratique de cette écriture-là, comment vous écrivez, où vous écrivez, comment vous écrivez?
J'écris difficilement. Je mets du temps, je mets du temps. J'écris le matin, très tôt. J'écris à 5 heures du matin. Et pratiquement tous les jours, quand je suis en écriture, régulièrement. Et j'aime bien démarrer au stylo, sur du papier. Et puis je rentre ensuite dans l'ordinateur. Et peu à peu, ça s'ouvre. J'ouvre les phrases, j'ouvre les. Voilà, je complète. Mais j'aime bien aller dans un premier jet au stylo parce que je ne suis pas assez rapide sur le clavier et pour garder ma pensée et aller au bout. Mais souvent, j'aime bien qu'on m'emmène à des endroits où je ne serais pas allé. Par exemple, des colloques m'incitent à aller à des endroits que je n'aurais pas pensé. Il y a 3 ans, j'ai travaillé sur le silence, par exemple. C'est un objet que je n'avais jamais pensé vraiment. Et en travaillant là-dessus, d'un seul coup, on change de paradigme. Et on se dit, si le fondement était l'écriture du silence, à partir du silence, c'est-à-dire comme le théâtre, c'est un lieu au silence, dans du noir, où on importe, où on introduit des choses qui vont faire sens. Bon, ça serait quoi construire, voilà, un récit, une forme, à partir du silence? Combien d'éléments sont nécessaires et suffisants? Voilà. Donc, penser à partir de là, penser ce que c'est que finalement la relation au silence ou la construction avec le silence, ou où il est et comment travailler avec le silence, c'est des choses qui déplacent et qui nous amènent bien ailleurs de l'endroit où on travaillait. Donc voilà, j'aime bien aussi ça, faire des conférences, parce que souvent on me demande de m'intégrer dans des projets qui ne sont pas du tout ceux que j'aurais pensé. Le chaos, par exemple, j'ai travaillé sur le chaos. Le prochain bouquin, il y aura des articles sur ces questions-là, ouais.
Des contraintes créatrices.
Oui, absolument, absolument. Voilà.
Entendu, merci beaucoup. On a largement ce qu'il faudra pour faire notre format.
Ça va être difficile de tailler, ouais.
Oh non, mais oui, on va garder comme tel, je pense. Hein. Ça s'écoute.